C'est dans une usine de Dunkerque transformée en bunker qu'Emmanuel Macron s'est rendu ce matin. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca y a officiellement annoncé un investissement de 450 millions d'euros sur 5 ans.
Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout exploserait, c'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en termes d'investissement. On recrée des emplois dans tous les secteurs et dans l'industrie.
Pour la France, en ce début d'année, c'est le jackpot. Près de 10 milliards d'euros d'investissement sont annoncés par de grands groupes étrangers. L'armateur italien suisse MSC, par exemple, a commandé deux nouveaux paquebots au chantier de l'Atlantique. Des annonces faites dans le cadre de la troisième édition du sommet Choose France, Choisissez la France. 200 patrons sont conviés au château de Versailles. Paradoxe, malgré un front social agité, la France reste une destination toujours plus attractive pour les groupes étrangers.
Les investisseurs étrangers, ils cherchent des pays dans lesquels ils se posent pas trop de questions sur 50, 10 ans d'horizon. Donc oui, il y a beaucoup de vicissitudes, qui sont, que ça soit terroriste, que ça soit un climat social, que ça soit un certain nombre de grèves. Mais en dépit de tout ça, on a beaucoup plus d'atouts que de faiblesses.
Principaux atouts, la flexibilité injectée par la réforme du Code du travail et des aménagements sur mesure pour séduire les investisseurs. Un levier indispensable pour le ministre de l'économie.
Et tout ça n'est pas tombé du ciel. La baisse de la fiscalité sur le capital, c'est ce qui permet à l'industrie d'investir.
À quel prix Emmanuel Macron rend-il la France plus attractive? Son succès se fait-il au détriment des droits des salariés et de nos partenaires européens?
Donc un téléspectateur qui pose la question suivante, comment expliquer l'attractivité de la France malgré une situation, un contexte social marqué par les violences et les tensions? Olivier Babeau, ça fait en effet un an que la France est secouée notamment par le mouvement des Gilets jaunes et pourtant elle attire les investisseurs étrangers. Ça peut paraître paradoxal, comment est-ce qu'on explique
Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, la raison, c'est peut-être que s'il y a, les gens se disent, s'il y a des confrontations, oui. S'il y a des protestations, c'est précisément parce qu'on fait quelque chose. Parce qu'il y a des réformes qui sont faites, et donc ça donne plutôt confiance. Et puis par ailleurs, il y a d'autres choses assez objectives qui ont été faites pour les entreprises, du point de vue des relations avec l'administration, évidemment des évolutions sur la fiscalité des revenus du capital,
sur la fiscalité de l'ISS, etc. On va les détailler
voilà.
Tout à l'heure.
Et donc ça, ce sont des choses qui sont objectives, donc paradoxalement, la confiance de l'étranger vis-à-vis d'un système qui est plutôt pro-entreprise, pro-business, elle a plutôt cru, alors que c'est effectivement, ces gilets jaunes peuvent faire penser qu'on est dans une forme de chaos, mais c'est pas vrai. Voilà.
Guillaume Duval, vous souscrivez cette analyse, l'analyse de ce paradoxe, comme disait Nadia?
Non, pas vraiment. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a toujours été attractive. On a toujours été tout en haut du palmarès des pays qui attirent le capital étranger, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent. Ce qui se passe, c'est que tout cela est relatif de toute façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche un grand pays européen où s'installer, on ne va pas au Royaume-Uni. Oui. En Allemagne, l'économie ne va pas très bien et de toute façon, il n'y a pas de main-d'œuvre. On a du mal à embaucher si on s'installe. En Italie, je ne vous en parle pas. Donc, parmi les au royaume des aveugles, les borgnes sont
noirs. C'est gentil.
Par défaut, on s'installe
les
en France.
Que nous sommes.
Et alors, c'est vrai qu'en France, encore pour l'instant, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas mené sa politique jusqu'au bout, on a plutôt un système de santé qui fonctionne, on a plutôt un système éducatif qui marche, on a plutôt des bonnes infrastructures. Donc c'est en fait beaucoup pour ces raisons-là. Et puis on est bien placé pour desservir le reste de l'Europe, l'Europe à 27 en particulier aujourd'hui. Donc on s'installe en France. Mais c'est pas nouveau.
Bon, très bien. Ah oui, donc ça, c'est pour l'autosatisfaction macronienne, hein, que vous précisez que ça n'est pas nouveau. Le chiffre du jour, Benjamin,
c'est pour vous. C'est 2. Reste que la France, malgré tout ce que vous disiez, bien le deuxième pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers, donc derrière l'Allemagne, mais devant l'Angleterre. Alors comment, quels sont les facteurs, Anaïs Wagilis, qui les explique? Est-ce que c'est notamment le Brexit dont on parlait à l'instant?
Alors, je pense que ce qui a été dit précédemment est juste, mais il faut peut-être relativiser aussi ce qu'on entend par attractivité. Mm-hmm. Attractivité pour les investissements étrangers, mais à destination de quoi? À destination de l'industrie, à destination des services. On est très fort pour l'industrie, mais il faut relativiser. C'est premièrement, quand on regarde les données du baromètre qui met en avant cette attractivité forte, c'est souvent des gens qui sont déjà présents. Donc ce sont des extensions de sites, pas des créations de sites.
Quand vous dites sites, c'est des usines,
par exemple.
Hein. D'accord.
Voilà. La deuxième bémol qu'on peut émettre, c'est qu'on a des investisseurs qui viennent, qui sont attirés par le pays, certes, mais qui, c'est finalement des investissements qui sont assez peu créateurs d'emplois, puisqu'en moyenne, en France, c'est une trentaine d'emplois. Quand on regarde...
Par projet
d'investissement. Quand on regarde, par exemple, les investissements étrangers britanniques, alors sur le baromètre, cette année, ils ne le montrent pas, mais l'année dernière, ils le montraient, on était sur plus de projets et plus d'emplois par projet. Donc finalement, l'attractivité, elle peut être relativisée en fonction de l'angle.
Quand même, il y a 10 ans, Olivier Babeau, on disait il n'y aura plus d'industrie en France. Alors, est-ce que vous dites que c'est aussi dû aux politiques menées? On disait c'est terminé, il faut qu'on s'oriente vers la high-tech, et c'est terminé les industries.
Et les services exclusivement.
La part de l'industrie dans le PIB, elle est passée en 1975 de 25% à, en 2017, environ quasiment 10%. Et en fait, l'emploi... À partir de l'élection d'Emmanuel Macron, corrélation n'est pas causalité, évidemment, mais effectivement c'est troublant, ça a commencé à remonter un petit peu, alors que c'était une sorte de descente aux enfers qui n'en finissait pas. En fait c'est dû évidemment à beaucoup de choses, c'est dû à un intérêt relatif de la France par rapport à d'autres pays qui peuvent être en difficulté, mais le fait est que on est un peu plus attractif pour l'industrie. C'est pas l'explosion qu'on pourrait souhaiter, mais il y a en réalité, c'est vrai, des implantations qui arrivent, des marques d'intérêt, ce qui est lié aussi à tout un écosystème. C'est lié au fait que on a une bonne administration, on a des routes qui sont de très très bonne qualité.
Ce qui existait avant, et qui continue à provoquer, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron,
cette espèce d'idée que tiens, c'est l'endroit où on peut être.
Vous parlez d'Emmanuel Macron, alors peut-être pour Guillaume Duval. Est-ce qu'il y a aussi un effet Macron? Est-ce que c'est embêtant de le dire? Ou est-ce que ce président-là a donné aussi à la France une image entrepreneuriale qu'elle n'avait pas?
Oui, je pense.
Plus jeune et plus entrepreneuriale.
Il y a eu un effet Macron au début, et qui explique d'ailleurs les investissements qui sont là aujourd'hui. Ce qu'on peut redouter, c'est qu'après un an de gilets jaunes, puis de lutte sur les retraites, etc., cet effet Macron, il s'estompe assez vite. Mais ça, on le verra dans un an ou deux. C'est-à-dire que les investisseurs se rendent compte que ce gars-là n'est pas vraiment capable de diriger ce pays.
Et qu'il
dresse les Français les uns contre les autres, que ça fait de l'instabilité politique et sociale chronique, et que donc finalement, tout bien réfléchi, c'est peut-être pas aussi miraculeux que ça pouvait le paraître en 2017, quoi.
Alors justement, bien, on peut écouter ce syndicaliste de Sudrail, vous nous tendez la perche, puisque vous n'êtes pas le seul à le penser, Guillaume Duval, que tout cela peut être précaire. C'était aujourd'hui à Dunkerque qu'on l'écoute.
Aujourd'hui, on avait le roi Macron qui se déplaçait à Dunkerque et il était hors de question qu'on le laisse venir sur Dunkerque sans montrer qu'il y avait encore des grévistes qui se mobilisaient et qui voulaient toujours exiger le retrait du projet de loi sur les retraites. Il était hors de question qu'il vienne se pavaner ici à Dunkerque sans qu'il y ait une réaction de notre part.
Anaïs Vogilis, est-ce que ça peut être précaire, ça peut être temporaire, cette réindustrialisation, comme disait Guillaume Duval, et comme semble le craindre ces syndicalistes?
Une chose est sûre, c'est que la réindustrialisation de la France, elle est fragile. Elle est nécessaire parce que l'industrie... Alors, moi, je considère que l'industrie, on doit aller au-delà de l'industrie manufacturière et la définir de manière plus large, parce que l'industrie, ce n'est pas que des usines.
Et comme quoi, dites-nous ce que c'est.
Alors, par exemple, les services à l'industrie, tous les gens qui vivent de l'existence de l'industrie sur le territoire, tout ce qu'on appelle les utilities, donc le traitement des déchets, l'énergie, etc., ça fait partie aussi du monde industriel. Donc, on a intérêt à avoir cette définition un peu plus large. Mais pourquoi la réindustrialisation, elle est fragile? Parce qu'on voit qu'on a une dynamique qui se réamorce, mais on a aussi deux contraintes majeures. Premièrement, l'administration française, elle est peut-être sympathique quand on a le PDG de Safran, M. Petit-Colin, qui en avril 2019 dit « J'hésite à implanter un site en France au regard des difficultés administratives ». Ça questionne, et ça questionne aussi sur l'attractivité du territoire. La deuxième chose, c'est un sujet de compétences. C'est-à-dire que la réindustrialisation...
Compétences, c'est-à-dire des ingénieurs, des savoir-faire.
La réindustrialisation, elle sous-entend en général, une automatisation plus forte des sites et donc une évolution des compétences nécessaires sur les sites industriels. L'ouvrier peu qualifié qu'on a connu pendant de nombreuses décennies, aujourd'hui, ce sont des profils qu'on voit de moins en moins dans les usines. On va vers des profils beaucoup plus d'ingénieurs et notamment d'ingénieurs en informatique. Et la réindustrialisation, elle est pertinente si elle se fait sur l'ensemble des territoires et notamment dans les petites villes, les villes petites et moyennes, où on n'a pas forcément ces compétences. Donc le sujet de l'attractivité au-delà de la France, c'est aussi une attractivité des territoires en eux-mêmes. Et je porte juste une dernière précision, c'est que la politique industrielle, qui n'est pas encore une stratégie industrielle, parce qu'on a besoin d'une stratégie industrielle comme l'a eu l'Allemagne à partir des années 90, c'est qu'elle... Les principalement destinés aux grands groupes, liés à l'héritage gaulo-pompidolien. Et parfois, on devrait s'intéresser aussi aux PME, aux ETI, qui sont créatrices d'emplois dans ces territoires et qui sont aussi fortement exportatrices.
Mais en Allemagne, on dit que ça s'est fait aussi au prix d'un dumping social. Olivier Babeau, est-ce que c'est aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui? On l'entendait dans la voix de ce syndicaliste.
La réalité, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez suggéré, l'industrie aujourd'hui, ce n'est plus les temps modernes de Charlot. C'est quelque chose, on parle d'industrie 4.0, des industries beaucoup plus automatisées, qui font appel sans doute à moins de personnes en réalité, qui sont moins intensives, plus intensives en capital et moins intensives en travail qu'avant, et des compétences qui sont beaucoup plus de haut niveau. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes gens, et ce sont des gens effectivement qu'on a parfois du mal à faire venir dans les territoires, alors que l'espoir de l'industrialisation, la réindustrialisation, c'est précisément que c'était une réponse à la désertification territoriale, puisque vous mettez des industries, ça apporte des emplois, donc ça apporte des commerces, ça permet de maintenir tout un écosystème de systèmes de santé, d'école, etc., de services publics. Et en fait, c'est ça l'espoir. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est à la fois, avec Internet, c'est extraordinaire, parce qu'on a une industrie moderne qui est plus petite qu'avant, qui a besoin d'être plus proche de ses marchés. Et donc, c'est une opportunité pour qu'elle revienne, en effet, aujourd'hui, sauf que c'est pas l'industrie d'hier, c'est pas l'industrie textile d'autrefois qui va revenir. C'est d'autres compétences, c'est d'autres gens. Et donc, ça ne va peut-être pas être la solution qu'on espérait pour les territoires.
Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose en lien avec la formation, l'éducation, des gens qui doivent être formés en direction de ces industries et des besoins de ces nouvelles industries.
Non, mais c'est vrai que l'industrialisation de la France, et en particulier la décentralisation de l'industrie en France, s'est faite sur une logique un peu bas de gamme, je dirais. C'est-à-dire une logique où on implantait des usines avec des OS qui étaient des anciens agriculteurs. Qui n'avait pas beaucoup de qualifications, etc. C'est tout à fait d'autre chose dont il s'agit. Effectivement, c'est une difficulté pour la France parce que on a un système éducatif qui forme très bien une toute petite élite qui va à l'IX, à l'ENA et en général qui va dans la finance derrière et pas dans l'industrie.
Mais
on a un système éducatif qui forme pas très bien la grande masse de la population parce que justement on s'intéresse qu'à cette minorité. Donc ça peut être un problème dans le futur. Et puis quand on prend le parallèle avec l'Allemagne, effectivement, ce qui est très différent, c'est le statut social de l'ouvrier, de l'employé de l'industrie, qui est très différent. C'est aussi considération
à la fois la paye en Allemagne.
C'est pas si l'Allemagne produit deux fois plus de voitures que nous, c'est pas du tout parce que les ouvriers de l'automobile sont moins bien payés que chez nous. L'écart, c'est un peu réduit, mais un ouvrier de l'automobile allemand, ça coûte toujours 25% de plus qu'un ouvrier de l'automobile français. Mais simplement, la considération pour les ouvriers, la considération pour l'industrie est beaucoup plus importante, et le pouvoir et la reconnaissance à l'intérieur des entreprises, quand on dit l'Allemagne a fait du dumping social, il y a un domaine où ils n'ont rien fait, ils n'ont pas mis en cause le pouvoir énorme des syndicats, des représentants des salariés dans les grandes entreprises. Il y a toujours des conseils d'administration où vous avez une moitié de représentants des actionnaires et une moitié de représentants des salariés. Les comités d'entreprise allemands ont toujours un pouvoir de veto sur la plupart des décisions managériales. Et c'est pour ça que ça marche bien. C'est parce que les salariés de l'industrie allemande, ils ont l'impression d'être embarqués, d'être concernés par la politique menée par leurs
syndicats. Ils n'ont pas exactement la même attitude que chez nous, qui quand même ont pas mal accompagné l'évolution de l'industrie.
Ils auraient la même attitude.
Je crois qu'on appelle tous de nos voeux la modernisation du syndicalisme français.
Anaïs Vaugilis, est-ce qu'on est en train quand même en France de se dire qu'il y a une autre forme de réindustrialisation, de s'orienter vers d'autres technologies et d'abandonner tout un domaine qui n'est plus porteur, comme l'automobile, comme tous ces secteurs peut-être qu'on juge un peu plus archaïques.
Je ne sais pas si on juge l'automobile archaïque. Je pense qu'il y a des stratégies de groupe, de grands groupes, qui ne sont pas forcément des stratégies les plus favorables pour le territoire national. Alors ça, on peut questionner l'attachement de ces groupes à la nation française et la manière dont ils se représentent, leur rôle sur le territoire. Une chose est sûre, c'est que l'industrie de demain, elle aura peu de choses à voir avec l'industrie d'hier. Parce qu'elle va être plus automatisée, elle va être sur des usines plus petites, et on va avoir, je pense...
Elle sera plus verte aussi.
Elle va devoir être plus
verte. Elle va devoir être plus verte.
Elle n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'industrie doit, en tant que grand participant à la pollution, doit être l'une des premières à permettre de relever ce défi. Et je pense que la reconfiguration qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des sites qui vont rester à vocation mondiale, des sites qui seront principalement en Asie, et on va avoir certainement une relocalisation d'une partie des chaînes de valeur pour répondre à